L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Mauré.
Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour Christophe Mauré.
Votre voix est familière aux auditeurs de Radio Notre-Dame puisque vous venez de temps en temps voir Louis Dauphren, notamment pour la revue de presse. Et là, vous publiez Le sourire de l'alligator aux éditions du Rocher. C'est une fable écologique, dites-vous. Alors le roman est la science de l'anomalie, écrivait Louis Aragon. Et puis là, on y est. Nous assistons au dérèglement climatique, à la montée des eaux et à la possible disparition de la Camargue. Fait surprenant, une nouvelle faune s'installerait au paradis des chevaux et des taureaux, un alligator venu d'on ne sait où. Alors, la région, le pays, le paradis, est partagé en deux communautés qui se partagent au quotidien. Il y a les gardiens et les gitans. Il y a les gens du voyage venant se rassembler tous les 24 mai en pèlerinage auprès de la Vierge Noire. Et puis, il y a les gardiens. Ça devient très très compliqué parce qu'il y a énormément de nouvelles lois, de nouvelles procédures administratives, on va en parler pour les riziculteurs, c'est extrêmement compliqué. Et finalement, la Camargue est assez polluée par plein de choses et vous pleurez. Alors on a une question de culture et de nature, je vous cite pour l'identité. Vivre en Camargue, c'est participer à chaque moment de la vie, les plus joyeux comme les plus tristes, au grand cérémonial d'une culture qui doit s'exposer pour résister. Le voyeurisme des étrangers face à ce qu'ils perçoivent comme une représentation permanente renvoie les Camarguais à la force de leur identité et les soude. Quelle est-elle, cette culture ?
Alors, la Camargue, c'est une terre fabuleuse, c'est un polder hein, entre les deux bras du Rhône, et c'est une terre de légendes et de mythes soudée par une foi profonde. Cette foi, elle a été codifiée dès le début du XXe siècle dans le cadre de Frédéric Mistral et notamment du marquis de Baroncelli qui a fait reconnaître le pèlerinage des Gitans en vers, vous l'avez cité, Sarah, la Vierge Noire, dont on dit qu'elle a accueilli sur le rivage Marie Jacobée et Marie Salomé, qui arrivaient de Palestine dans une barque sans rame ni voile. C'est une terre de foi profonde, c'est une terre de tradition, puisque le marquis de Baroncelli a voulu résister à la modernisation industrielle technicienne venue de Paris, comme on résiste aujourd'hui à celle de Bruxelles, en donnant à ses cavaliers, qui étaient de pauvres gens, qui gardaient leurs taureaux comme à bâton planté dans des marécages, il leur a donné des lettres de noblesse. C'est la nation gardienne qui a à la fois des tenues, des traditions, des célébrations autour du culte de ce qu'on appelle le biou, c'est-à-dire le taureau aux cornes en forme de lyre. Et ce taureau, on ne le met jamais à mort dans la course camarguaise. Et puis, après le marquis de Baroncelli, il y a eu un autre homme qui a fait que la Camargue a été connue dans le monde entier, aimée dans le monde entier. C'est le film Crin blanc, qui a eu la Palme d'or à Cannes en 1953.
Oui.
Et le petit Folco, vous savez, préfigure l'équitation affective, l'équitation où on est fou des chevaux. Ce ne sont plus des chevaux outils, ce sont des chevaux amis. La Camargue devient pour le monde entier le paradis où les chevaux et les enfants sont toujours des amis. Alors tout ça, c'était bien sûr...
Amis et complices.
Et complices. Alors ouais. Le petit garçon qui jouait Crin blanc, Alain Emmerich, il disait qu'il était le plus vieux petit garçon de Camargue, vient de mourir à l'âge de 82 ans. Et je situe mon roman au moment où a lieu le grand pèlerinage. D'abord le pèlerinage de Sainte-Sara le 24 mai, le pèlerinage de Marie Jacobée et Marie Salomé le 25 mai, et puis le 26 mai, l'hommage autour du tombeau du marquis de Baroncelli. Et dans cette Camargue, où finalement la nature...
Il est où ce tombeau ?
Il est juste à la sortie des Saintes-Maries de la Mer.
D'accord.
C'est un très beau tombeau où les Arlésiennes, les gardiens, les prêtres, les gitans se retrouvent pour célébrer cette foi chrétienne qui unit la Camargue.
Alors, vous en parlez avec beaucoup de soleil et de joie, mais enfin, tout n'est pas rose, je vous cite. Le riz ne rapporte plus. Produire coûte de l'argent au lieu d'en rapporter. Il ne sait pas combien de temps encore il arrivera à tenir. Les charges l'étranglent. Les normes de production changent sans cesse. De plus en plus de traitements sont interdits. L'Italie et l'Espagne ne se privent pas de les utiliser. La concurrence déloyale et les tracasseries de l'administration le rendent fou. Chaque jour tombe un nouveau règlement. Chaque jour, une nouvelle taxe. Tout est devenu trop lourd, l'exploitation demande sans cesse de nouveaux investissements, d'énormes machines pour récolter le riz, équiper les tracteurs de systèmes informatiques, acquérir des lasers pour créer des champs parfaitement horizontaux avant de les inonder. Être riziculteur aujourd'hui, c'est scruter son ordinateur et son compte bancaire, bien plus que le ciel ou le champ. Le métier est devenu trop technique pour lui.
Oui, alors, vous savez, moi...
Ce que vous racontez là...
C'est la vérité, bien
tous
sûr.
Tous les agriculteurs, même dans la Beauce... Le vivre.
Alors, vous le savez, moi, je travaille depuis très longtemps sur les questions de développement durable, de sécurité alimentaire.
Oui. Vous la avez crise... écrit pas mal de bouquins.
Oui, et la crise agricole, évidemment, a été pour moi l'objet d'une intense mobilisation. Donc, cette Camargue, elle n'est belle que parce que les riziculteurs dessalent les terres, ce qui permet au cheval blanc et au taureau noir d'avoir des pâturages, et que parce que les saliniers créent des étangs de concentration du sel qui permettent au flamand rose, la fameuse trilogie de la Camargue, le cheval, le taureau, le flamand, d'exister. Et malheureusement, aujourd'hui, les acteurs productifs de Camargue sont soumis à une petite musique désespérante où on leur dit qu'il faut se replier, qu'il faut renaturer, qu'il faut rendre la Camargue à la nature, mais en l'espèce, la nature en Camargue, c'est la mer, c'est le sel. Et donc, je mets en scène dans le sourire de l'alligator l'arrivée d'un animal, exotique, qui va tout changer et qui va redonner de l'espoir aux acteurs camarguais.
Alors d'abord, il va redonner de l'espoir, il va donner d'abord du stress. C'est-à-dire, et c'est là où votre livre est remarquable, Sylvie Brunel, le sourire de l'alligator, c'est que on ne le voit pas au départ. Mais on entre dans sa personne, et donc la petite Mireille, qui a 17 ans, qui chevauche son cheval Mistral, on se dit, elle va se faire croquer, parce qu'on sent la présence de l'alligator sans pouvoir dire exactement où il est.
Tout à fait, Christophe. En fait,
et ça, c'est très réussi.
Oui, l'alligator rôde. Alors, il faut dire, bien sûr, aux auditeurs... comment cet alligator arrive en Camargue, parce que ce n'est pas un secret dans le roman. Vous savez que dans la Drôme, il y a la plus grande ferme d'élevage aux crocodiles d'Europe, qui s'appelle la ferme aux crocodiles, qui est une magnifique réserve tropicale. Et l'alligator, qui est un alligator blanc, c'est-à-dire un alligator symbolique, il n'y en a que 8 dans le monde, eh bien, on essaie de le voler, parce qu'il y a une mafia aujourd'hui des animaux exotiques, un trafic. Et cet alligator parvient à s'échapper, il descend le Rhône, et il va s'installer au cœur du Vacarès, dans ces terres mythiques, puisque Joseph Darbo y situait la bête du Vacarès. Au départ, eh bien, il est dans ce paradis, où nulle personne ne peut pénétrer. Il est tranquille. Il a à manger, parce que la Camargue est envahie par les ragondins. Il ne s'en prend pas aux oiseaux, parce qu'il y a entre les oiseaux et les alligators une sorte de symbiose, les uns protégeant les autres. Mais progressivement, le sel arrive, le sel s'insinue, c'est toute l'histoire de la Camargue aujourd'hui. Et cet alligator, il va devoir quitter son paradis. Et quand il quitte son paradis, il arrive à la rencontre des hommes. Et là commence l'histoire du crocodile blanc, qui est finalement une nouvelle version de Crin Blanc.
Alors forcément, la presse s'empare du...
C'est tout le mécanisme des réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. C'est tout le mécanisme de la mobilisation mondiale. Un alligator en Camargue. Le monde entier se mobilise et le pêcheur Paco dit « Mais attendez, si vous saviez tout ce que la Méditerranée recèle aujourd'hui avec des requins, des raies, ce n'est pas tellement surprenant qu'un alligator arrive en Camargue. » Sauf que les gitans, eh bien les gitans se disent « Mais... voilà une espèce idéale pour le braconnage. » Et dans ce livre, dans ce roman, finalement, chaque personnage...
Chaque personnage... Il prend son intérêt.
Va surtout évoluer. C'est-à-dire que l'alligator va obliger chacune des personnes de ce roman, l'écologiste qui veut s'approprier son paradis, le riziculteur désespéré, le maire des Sainte-Marie-de-la-Mer qui ne veut pas que sa capitale de Camargue soit engloutie sous les flots, l'hôtelier qui, dans son hôtel Crin Blanc, est comme une proue, une sentinelle, face au changement climatique qui menace son hôtel de submersion, eh bien, chacun de ces personnages, il va évoluer face à l'alligator.
Et puis il y a du tertre, ça c'est un drôle de loustique.
Alors du tertre c'est le directeur de la tourade et oui. Vous savez, on a un gros problème aujourd'hui avec une certaine écologie qui est très élitiste et qui voudrait rendre les lieux à la mer, en oubliant qu'en Camargue la beauté de la Camargue, elle est d'abord due au travail de ces hommes.
Absolument.
Et donc c'est ce que ce livre explique aussi à travers tous ces personnages.
C'est la grande conclusion de votre livre et du roman. C'est le triomphe, finalement, que
Le triomphe de la foi. Le triomphe du fait de la confiance en l'avenir. Le triomphe de rien n'est jamais perdu.
Et que ce sont les hommes qui ont fait le pays et non pas et qu'il ne faut pas le laisser à la nature et à l'abandon, parce que sinon ce serait catastrophique. Retour en plateau, le présentateur du journal poursuit sur le réchauffement. Si elle se confirmait, la présence d'alligators en Camargue apporterait une preuve supplémentaire des dangers auxquels l'humanité s'expose par son inaction climatique. Il est urgent de changer rapidement de mode de vie. Aussitôt défile un pot pourri mêlant des sols d'argile desséchés, craquelés, la déforestation en Amazonie, un ours blanc perdu sur un morceau de banquise, des cheminées d'usines crachant leur fumée noire, des campements de fortune au Sahel, tandis qu'une députée écologiste si réputée pour ses diatribes qu'elle en est devenue qu'elle est devenue une des meilleures clientes des médias, admonesse le téléspectateur. Les journalistes sont allés à l'interview à l'Assemblée nationale dans la salle des quatre colonnes, ce qui confère à ses propos toute la sonalité nécessaire. Face à la tropicalisation accélérée de la France, tonne-t-elle, il est urgent d'abandonner les énergies fossiles. Ce gouvernement scélérat nous mène tout droit dans le mur. Ce qui se passe en Camargue le montre, imaginez-vous, des crocodiles chez nous. Alors ça, c'est... Je trouve l'ironie de votre roman merveilleux, parce que finalement c'est le miroir un peu de ce qui se passe. On a bien repéré Madame Rousseau, dans cette diatribe, mais c'est du grand n'importe quoi.
Non, c'est pas du grand n'importe quoi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que nous devons nous replier, que le temps de l'aménagement humain est terminé. Si la Camargue existe, c'est parce que Napoléon III a construit des digues, a endigué le Rhône, que parce qu'il y a eu un réseau d'irrigation et de drainage. Et aujourd'hui, la petite musique camarguaise, c'est de dire « Camarguais, partez, faites le deuil de ce que vous avez aimé, ces paysages qui sont des héritages n'existeront plus, et finalement mon alligator, parce que ce n'est pas un crocodile, c'est un alligator. »
On va y venir.
Et bien, mon alligator, c'est ce qui nous permet aussi de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui à travers une terre que j'aime profondément, une terre magnifique, une terre de légendes, de mythes, de traditions, qui est cette Camargue.
Alors, le fameux Duterte, qui est quand même, encore une fois, un drôle de loustique, lui, il va aller acheter des crocodiles dans les quartiers nord de Marseille.
Vous vous dévoilez tout, vous,
non,
Christophe.
Non, je ne dévoile pas. Je donne juste des points d'évolution de votre roman, parce que on est quand même sidéré, mais j'ai pas compris quel était son but.
Alors, d'abord, il y a un certain cynisme aujourd'hui de certains mouvements écologiques qui n'ont absolument aucun scrupule à dire à des acteurs productifs. Vous avez cité les agriculteurs, je vous ai parlé des saliniers, mais aussi les hôteliers, etc., qu'ils doivent s'effacer. En Camargue, la renaturation, c'est juste l'entrée de la mer, c'est juste la montée du sel. Eh bien, cet écologiste, ce directeur de la Tourade, alors vous savez qu'en Camargue, le Vaccarès, c'est une réserve intégrale depuis 1927. Quand l'alligator blanc apparaît, cet alligator blanc qui est apparu spontanément, parce qu'il est descendu le Rhône, il se dit qu'il tient un intérêt pour sauver ce territoire qu'il adore, mais que pour que cet intérêt soit, comment dire, réel, il faut qu'il n'y ait pas un seul alligator, mais il faut réintroduire les alligators et les crocodiles en Camargue. Et il va donc s'entendre, je ne voudrais pas dévoiler, il va donc s'entendre et il va faire une manipulation. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui, tout un ensemble de manipulations au détriment de ces gens qui, au quotidien, font cette Camargue que nous aimons.
Et alors, les crocodiles, c'est pas la même chose que les alligators?
Non, alors d'abord, l'alligator, on dit qu'il sourit toujours, le sourire de l'alligator. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a une tête ronde et il cache ses dents. Donc il a cette espèce de bouche festonnée qui lui donne l'impression de nous sourire. Alors, c'est pas un hasard, évidemment, si j'ai intitulé ce livre « Le sourire de l'alligator », parce qu'il nous adresse aussi un clin d'œil sur nos errances. Et puis, le crocodile, lui, c'est un animal qui montre ses dents, qui a la tête en triangle. La différence aussi entre les deux, qui sont des miracles d'adaptation, hein, ils ont survécu depuis 400 millions d'années sur la Terre, ils ont survécu aux dinosaures, c'est que quand il fait frais, l'alligator s'enfouit dans la Terre, donc il peut résister, alors que le crocodile est une espèce plus tropicale, et le crocodile, lui, ne résiste pas à un hiver frais. Or, même si nous acheminons vers une élévation des températures et une montée de la mer, bah, tout le monde le sait bien, les hivers peuvent être encore frais, il suffit de voir le temps d'aujourd'hui, pour s'en faire une idée.
Alors, nous parlons d'écologie, nous parlons de nature, mais il y a aussi, et c'est l'une des forces de ce roman, Sylvie Brunel, Le sourire de l'alligator, publié aux éditions du Rocher. C'est un plaidoyer en faveur de la conscience animale. Elle est portée par Samuel, qui est le vétérinaire passionné des sauriens. On assiste à une séance de marquage au fer rouge, et il y a cette scène terrible d'émasculation. Un entier, c'est un étalon, c'est le nom donné aux chevaux non castrés. Et alors là, on a une scène qui est terriblement, on ne va pas la raconter, et on ne va pas dire comment ça se termine, mais on sent que vous avez une volonté un plaidoyer pour la conscience animale, et que en Camargue, les animaux vivent vraiment, presque, je dirais, à égalité avec les hommes.
Oui, alors bien sûr, il y a cette figure du cheval ami qui est Crin-Blanc, qui vraiment préfigure notre amour aujourd'hui, cet amour notamment des femmes qui vont se tourner vers les chevaux, vont vouloir les préserver. Donc il y a à travers le personnage de Mireille qui fait écho bien sûr à Frédéric Mistral, cet amour profond des jeunes femmes et des gardiens pour leurs chevaux. Il y a aussi bien sûr la figure, il y a un chien aussi qui joue un grand rôle dans ce livre, mais il y a aussi finalement ces alligators à qui, eh bien, on se rend compte que ces alligators, ils jouent aussi leur propre partition, et que cet alligator blanc, qui est une figure très attachante, il a sa conscience, il a sa volonté d'exister, et il va nouer avec Samuel Martin notamment. Alors Samuel Martin, c'est le vrai nom du directeur de la ferme aux crocodiles de Pierre-Latte. Oui, j'ai demandé à Samuel Martin si je pouvais le mettre en scène dans un roman à la gloire à la fois de sa ferme, de son travail de biodiversité auprès des sauriens. Il a accepté et je mets en scène le vrai Samuel Martin. Il s'appelle comme ça, il dirige la ferme aux crocos et il a veillé à la véracité scientifique de mon livre.
Il y a une scène qui est terrible quand le cheval est couché et que les crocodiles peuvent attaquer et la nuit tombe et lui il est là où il doit à la fois sauver le cheval, écarter les crocodiles, attendre le retour de Mireille sur son cheval Mistral pour aller, qui est allé chercher des médicaments. On ne sait pas comment ça va se finir. Et là, on tourne les pages avec frénésie.
Parce qu'il n'y a pas que Mistral, le cheval de Mireille. Il y a Filou, il y a Grisou, il y a Saladelle. Oui. En Camargue, chacun a son cheval aimé. Donc, c'est un roman aussi qui traduit une société profondément imprégné d'un amour de la nature, d'un amour de ces animaux que l'on a apprivoisés. La Camargue, le taureau n'est jamais tué. C'est dans la course camarguaise, c'est lui qui figure en haut de l'affiche, c'est lui à qui l'on fait un tombeau. C'est lui qui, finalement, est célébré à travers la bouvine.
Mais enfin, il faut arrêter de nous faire croire que les animaux sauvages sont les bienvenus, lance soudain Alexandre sous le regard médusé de son père. Les loups, les requins, les crotales, c'est toujours le même refrain qu'on nous sert dans le monde entier. Rien à craindre si on respecte les territoires, Alexandre dessine les guillemets avec ses deux mains. Quand l'homme est attaqué, c'est qu'il est coupable, trop facile. Jacqueline doit s'en retourner dans sa tombe. Dites-le aux touristes allemands, blessés sur la piste des Méjanes. Combien d'autres morts faudra-t-il avant que nous réagissions? Ça suffit maintenant, un prédateur reste un prédateur. On n'a pas besoin de cette nouvelle menace en Camargue. Et effectivement, on a l'impression avec cet alligator d'être avec l'ours des Pyrénées et le loup des Alpes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des prédateurs qui arrivent, et au nom de l'écologie, au nom de la bien-pensance contemporaine, on laisse les prédateurs envahir
le territoire
que les humains avaient réussi à préserver et à garder pacifiquement.
Oui, alors dans ce roman, finalement, c'est un roman dans lequel je vais tisser l'ensemble des thèmes qui me sont chers, c'est-à-dire à la fois l'amour de l'humanité, le respect du travail des hommes, la capacité de chacun d'entre nous de se réaliser, d'évoluer, de ne pas être condamné par des jugements négatifs, et notamment dans l'évolution des gitans. Hein, les gitans qui, finalement, sont partout des gens qui sont proscrits, qui vont être rejetés et qui vont trouver leur voie. Et puis, bien sûr, notre relation à l'animal, parce que je suis très inquiète aujourd'hui par cette espèce de courant écologique qui me semble à rebours de l'histoire de l'humanité, qui considère que la nature est bienveillante, qu'elle doit reprendre ses droits, que l'homme est indésirable, et qui, aujourd'hui, fait toute la douleur des éleveurs de moutons dans le Massif central ou dans les Pyrénées, qui fait toute la douleur aussi de toutes ces populations à qui l'on dit, en Afrique ou ailleurs, repliez-vous pour rendre à ces territoires finalement la sauvagerie qui serait la seule acceptable. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si l'humanité existe, c'est qu'elle a dû construire son destin face à des phénomènes hostiles. La montée de la mer, la montée du sel, l'agressivité de certains animaux. Et la Camargue, elle incarne tout cela. C'est une nature construite par une culture, c'est une terre où si tout est beau, c'est parce que les hommes travaillent, parce que les hommes s'acharnent à construire des paysages. Et quand vous êtes, par exemple, dans les Salins d'Aigues-Mortes ou les Salins de Giraud, et que vous voyez ces étangs roses avec ces flamants sur fond des rambards d'Aigues-Mortes, vous vous dites que j'aime cette Camargue et comme j'ai envie qu'elle continue d'exister.
Alors Sylvie Brunel, vous avez énormément écrit sur toutes ces questions-là. Vous avez, je cite au hasard quelques ouvrages que vous avez publiés, « À qui profite le développement durable ?» L'Afrique, frontières, géopolitique de la faim, ceux qui vont mourir de faim, la coopération nord-sud, le sous-développement, le gaspillage de l'aide publique.
Sa Majesté le maïs. Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. Pour nos agriculteurs, oui, bien sûr.
Et là, vous avez pris la forme roman.
Oui.
Pourquoi ?
Alors, j'ai toujours, dans mon œuvre, si je puis dire, j'ai toujours voulu utiliser le roman quand je voulais, non pas défendre une thèse, mais montrer la complexité du réel. Frontières, vous l'avez cité, c'est mon roman sur l'humanitaire, la frontière ténue entre le bien et le mal. Un escalier vers le paradis, c'est comment le voyage à cheval peut transformer des jeunes femmes en quête d'elles-mêmes. Et le sourire de l'alligator, c'est une façon de parler de ce territoire qu'est la Camargue, qui est un territoire complexe, un territoire construit par l'ingéniosité humaine qui est soumis aujourd'hui à ce changement climatique, à ces volontés de sanctuarisation qui ne sont que des capitulations.
Mais tout à fait. Et alors justement, c'est un arbitrage entre nature et culture. La thèse que vous soutenez dans la conclusion s'oppose à l'écologie militante, à savoir que les hommes et les activités humaines sont contraires au développement de la nature. Vous écrivez, sans les saliniers et les riziculteurs, le delta deviendrait une mer intérieure. Grâce à eux, il reste des zones écologiquement les plus riches d'Europe.
Exactement. C'est un message d'espoir et c'est un message d'espoir sur fond de foi. Nous sommes à Radio Notre-Dame. Il y a toute cette foi des gitans, cette foi des gardiens. C'est ce rôle finalement de l'intercession des saints. Quand les personnages sont en difficulté, ils pensent à Sainte Sarah, ils pensent à Marie-Jacobée, Marie-Cécile, et ils les appellent au secours. Et il y a finalement un amour profond de ce territoire qui est construit par la tradition et cette tradition a permis de sublimer la nature.
Alors, quand on pense Camargue, on pense moustique.
Oh, mais vous êtes dur. Alors oui, la Camargue, c'est un territoire qu'on ne démoustique plus parce qu'on considère que, finalement, le moustique a tous les droits. C'est très difficile pour les Camarguais parce que dans les Pyrénées-Orientales, on a démoustiqué par avion, là, récemment. Le moustique a-t-il sa place en Camargue ? L'alligator a-t-il sa place en Camargue ? Les Camarguais ont-ils leur place en Camargue ? Ce sont des vraies questions.
Mais que vous évoquez, parce que vous parlez des moustiques, justement, il y a quelques passages.
Les Camarguais disent que le moustique de Camargue n'est pas un problème et qu'au contraire, il occupe la niche écologique, ce qui permet aux moustiques tigres de ne pas s'installer en Camargue. C'est-à-dire que les Camarguais arrivent à légitimer leurs moustiques en disant « mais ils font pas mal du tout, il suffit de pas se gratter, on vit avec ». Ben, ils n'ont pas le choix, de toute façon, on leur a interdit de démoustiquer.
Alors, est-il vrai que maintenant les chevaux ne sont plus marqués au fer rouge ?
Alors, pour l'instant, ils le sont encore. Moi, j'assiste régulièrement en Camargue à des cérémonies de marquage. Pourquoi ? Parce que les chevaux sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble lors des abrivages, lors des rousses à taille, c'est-à-dire qu'on mélange tous ces chevaux blancs. Les chevaux ne sont blancs en Camargue que depuis Crin Blanc, il faut le savoir. Avant, il y avait des chevaux de toutes les couleurs.
Ah bon ?
Mais Bruxelles demande que pour des raisons de bien-être animal, on ne les marque plus, donc on peut faire soit des marquages à l'azote, soit des puces électroniques. La tradition reste encore très forte pour l'instant en Camargue.
Faut-il la garder ?
Je pense que celle-ci mériterait d'évoluer parce que c'est quand même dur pour les poulains, ce marquage au fer. Alors, étrangement, ils semblent ne pas, au-delà du moment où ils sont marqués, ils s'en remettent très vite. Mais on n'aime pas ça, on n'a pas envie de voir cela. C'est comme l'équitation aujourd'hui en Camargue, est une équitation beaucoup plus éthologique que par le passé. Il y a de merveilleux cavaliers, mais en même temps, il faut se souvenir que c'est une équitation de travail. Donc quand vous êtes au milieu des taureaux, si votre cheval n'est pas parfaitement dressé, vous êtes en danger. Et quand vous êtes touriste et que vous venez en Camargue en short et en sandales, eh bien c'est la seule région de France où on peut vous mettre à cheval, parce que Crin-Blanc reste fondamentalement l'ami des touristes.
Alors, il y a cette scène, je l'évoquais tout à l'heure, de castration d'un cheval, et c'est le cheval de Mireille, et on ne va pas
Elle
plus loin.
Pas... Et il ne pas... sera pas castré.
Ah ben justement, je voulais il pas le dire.
Bah non, mais moi, je préfère le dire à l'auditeur bon. Qui se dit que.
Alors, vous bon, savez, il beaucoup... sera sauvé au dernier moment.
Oui, mais beaucoup de jeunes femmes veulent avoir des étalons. Hein, vous savez, c'est l'idée de qu'on va dresser un cheval sauvage, un cheval difficile. C'est très compliqué. Le grand écuyer Alexis Grus disait que c'était compliqué. Lui, il avait 60 entiers. À travers ce livre, il y a aussi tout l'amour du cheval.
Ah oui, absolument. Et on chevauche les grands espaces de Camargue grâce à vous, de nuit comme de jour, parce qu'il y a une chevauchée de nuit qui est particulièrement stressante dans votre livre et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai suivi avec attention.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Beaucoup, c'est... J'ai mis toute mon âme, tout mon cœur, toute ma foi et tout mon amour de la Camargue.
C'est très réussi. Merci Sylvie Brunel pour ce roman, Le sourire de l'alligator, publié aux éditions du Rocher. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Camille Meyer, Philippe Malpeuch et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je vous emmène au cinéma. Et oui. Et dans cette attente, eh bien, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.